queremos gritar que no queremos, no vamos a permitir que esos derechos que tanto han costado conseguir, pues nos sean arrebatados.
Si les femmes espagnoles ont aujourd'hui la possibilité d'aller à l'université, c'est en partie grâce à Maria de Maeztu, la fondatrice de la résidence des demoiselles. Découvrez à travers l'histoire de sa vie, celle de quatre de ses disciples.
Picasso, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Dali aussi, j'imagine. Et peut-être même Lorca ou Buñuel, de grands artistes et intellectuels espagnols du début du XXe siècle. Mais alors, seriez-vous capable de nommer des figures féminines espagnoles qui auraient, elles aussi, marqué cette même période? Non? Bizarrement, ça ne m'étonne pas plus que ça. Et pourtant, elles ont bel et bien existé. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de la Residencia de Señoritas, traduisible en français par la Résidence des Demoiselles, qui, de 1915 à 1936, a accueilli de très nombreuses femmes pour leur donner une éducation universitaire. Fondée par l'impétueuse Maria de Maeztu, cette école a réuni sur 20 ans de nombreuses étudiantes, toutes plus audacieuses les unes que les autres, à une période où l'éducation approfondie du genre féminin était bien rare, voire même inexistante. Elles sont tellement nombreuses à y avoir étudié ou à y être allées pour assister à des conférences ou des réunions féministes que j'ai décidé de vous parler de quatre d'entre elles. Il s'agit de Victoria Kent, Juana Moreno Sosa, Clara Campoamor et Josefina Carabias. Mais avant de commencer notre histoire, il me semble qu'un petit point historique est de mise.
Décembre 1898.
Cuba, Puerto Rico et les Philippines obtiennent leur indépendance. Cet événement marque la fin de l'Empire espagnol établi depuis plusieurs siècles et plonge le royaume dans une crise politique, économique et sociale qui soulève de grandes réflexions sur le futur de la nation. Alors que certains penseurs et intellectuels masculins se questionnent sur la manière de retrouver la grandeur impériale d'antan, des femmes pionnières du féminisme espagnol, comme Emilia Pardo Bazán ou Concepción Arenal, revendiquent l'importance de leur genre au sein de la société et réclament désormais le droit à la citoyenneté. En effet, à l'inverse des suffragettes anglaises et françaises, les féministes espagnoles ne cherchent pas à obtenir le droit de vote. La corruption présente sous la monarchie parlementaire du roi d'Espagne, Alphonse XIII, rendait les voies électorales inutiles. Elles décident donc de se concentrer sur d'autres batailles, telles que la modification du code civil qui leur permettrait, enfin, d'avoir accès, comme les hommes, à l'espace public. Vous vous en doutez peut-être, d'après ce que je viens d'expliquer, mais les femmes espagnoles étaient jusqu'alors considérées comme des mineures, dépendantes d'un homme de la famille, et n'avaient pas le droit de sortir de chez elles sans être accompagnées. Destinées à un enfermement sans fin dans l'espace privé de leur maison, il leur fallait s'occuper patiemment des enfants en attendant le retour de leur mari. Au début du XXe siècle, l'unique possibilité d'en sortir était d'intégrer l'école des institutrices fondée en 1869 qui, comme son nom l'indique, a pour vocation de former les futures institutrices du pays. En 1910, en pleine première vague du féminisme espagnol, plusieurs générations de professeurs des petites écoles ont déjà été formées. Les premières associations et organisations féministes voient le jour et de plus en plus de femmes réclament l'accès à l'université. C'est dans ce contexte contestataire qu'elles obtiennent, le 8 mars de la même année, le droit d'entreprendre des études supérieures. Avant cela, rares étaient les femmes qui réussissaient à intégrer ce lieu exclusivement masculin, puisqu'elles devaient obtenir l'autorisation de leur famille et des autorités pour s'y inscrire et devaient être accompagnées d'un homme pour s'y rendre. Évidemment, une fois ce parcours de la combattante achevé, rien ne leur assurait l'obtention d'un diplôme. Les chiffres montrent qu'avant 1910, seules 77 femmes avaient réussi à s'y inscrire et que seulement 36 d'entre elles avaient été diplômées. Vous pouvez donc largement imaginer le retentissement qu'a eu ce nouveau droit. Grâce à l'éducation, c'est un chemin vers l'indépendance qui s'ouvre à elle. C'est là que tu entres en jeu, Maria de Maeztu. Née entre 1881 et 1882 à Vitoria, dans les Pays Basques, tu viens d'une famille privilégiée. À 17 ans, en 1898, tu obtiens ton diplôme d'institutrice et tu débutes en tant qu'enseignante dans l'école de langue de ta mère à Bilbao. Tu décides en 1907 de quitter le nord de l'Espagne pour commencer des études de philosophie et de lettres à Séville, où tu vis chez l'ami de ton frère, le célèbre auteur Unamuno. C'est lui qui t'escorte jusqu'aux portes des salles d'examen, auxquelles ton genre féminin ne te laisse normalement pas accès. Car, rappelez-vous, les femmes n'avaient légalement pas encore le droit d'aller à l'université. Pour terminer tes études, tu déménages en 1910 à Madrid. À cette époque-là, aucun aménagement n'est prévu pour que les femmes puissent étudier dans d'autres villes que celles de leur famille. Par manque de logements adaptés, tu te retrouves donc à vivre dans un environnement insalubre et extrêmement bruyant. La même année, la résidence des étudiants, établissement exclusivement réservé aux hommes, est créée. Le concept est tellement innovant que de nombreux jeunes hommes viennent de tout le pays pour y habiter, la transformant rapidement en un lieu d'effervescence intellectuelle et de rencontre entre tous les futurs grands artistes masculins du royaume. C'est à ce moment-là que l'idée émerge.
J'ai pu voir comment la résidence d'étudiants, fondée en 1910, s'est transformée en un foyer culturel et en une référence en la matière. Si l'on voulait prétendre à l'égalité femmes-hommes, il était clair qu'une institution parallèle avec le même objectif était nécessaire. Réduire la distance et les inégalités d'éducation auxquelles nous étions confrontés en tant que femmes. Un endroit sûr, où les résidentes laisseraient leur foyer familial pour s'immerger peu à peu dans un monde universitaire.
Tu n'as désormais qu'une seule idée en tête. Terminer tes études pour créer une résidence où les femmes pourraient, à leur tour, trouver tous les outils culturels et intellectuels nécessaires à leur émancipation. Tu décides donc de mettre à profit tes étés pour voyager dans différentes écoles européennes et y observer les manières d'enseigner des autres pays.
Octobre 1915, Madrid.
Alors que la Première Guerre mondiale bat son plein dans les pays voisins, le royaume d'Espagne reste neutre et donc épargné par les dégâts belliqueux. C'est dans ce contexte que tu obtiens, après de longues conversations avec la Junta para Ampliación de Estudios, une assemblée qui vise à améliorer le service d'éducation du pays, l'accord et le financement nécessaires pour concrétiser ton projet. Tu es désormais la fondatrice et directrice de la résidence des señoritas qui vient d'ouvrir ses portes rue Fortuny. Tu es actuellement devant l'entrée de ce bâtiment qui, tu ne le sais pas encore, aura un si grand impact sur le quotidien des femmes espagnoles de ton époque. Capacité d'accueil de 30 étudiantes, bibliothèque, laboratoire, équipement sportif et salle de révision. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à tes futures étudiantes de s'instruire. La résidence des señoritas est née. Ça y est, le premier épisode est déjà terminé. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou encore à partager ce podcast s'il vous a plu. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.